C'est en lisant qu'on devient liseron. La Fédération des œuvres laïques de l'Ardèche vous invite, petits et grands, à ouvrir vos oreilles pour écouter des histoires racontées par les bénévoles de Lire et Faire Lire. Une émission réalisée conjointement par les radios ardéchoises, Radio des Boutières, Radio d'ici, Déclic Radio et Fréquence 7.
Yasuke, une histoire de Frédéric Marais. Au pied du Kilimandjaro, la plus haute montagne d'Afrique, vivait un garçon qui n'avait pas de nom. De jour comme de nuit, il restait à l'écart des hommes, dans l'enclos des animaux. Aucun homme de la tribu ne lui adressait la parole, parce qu'aucun ne connaissait son nom. Il n'en avait pas. Personne ne lui avait jamais donné de nom. Sur son dos, il y avait bien une marque, mais ce n'était pas un vrai nom. Ce n'était qu'une marque. Et les animaux avaient la même. Un soir, le garçon partit. Il imaginait que quelqu'un, quelque part, lui donnerait un nom qui ferait de lui un homme comme les autres. Après de nombreux jours de marche, il arriva au bord d'un océan et aperçut un bateau. Il nagea comme il put pour le rejoindre. Les marins lui donnèrent à manger, une paillasse pour dormir et du travail sur le pont. Mais pas de nom d'homme. Le garçon navigua ainsi durant des années, jusqu'au jour où son bateau approcha d'un pays encore inconnu. Tout l'équipage débarqua et fut escorté auprès du puissant et redouté Oda Nobunaga, seigneur de cette mystérieuse contrée. Ce seigneur de guerre, qui encore n'avait jamais vu d'homme à la peau sombre, fut très impressionné par les qualités physiques du garçon et par la droiture de son regard. Le seigneur prit le garçon sous sa protection et ordonna à son meilleur maître d'armes de le former. Le garçon apprit à manier de nombreuses armes et devint un combattant très redouté. Sa fidélité au seigneur et sa témérité lors de grandes batailles firent de lui le soldat le plus apprécié de toute l'armée. Le seigneur remercia le garçon en le nommant au rang de samouraï et, selon la tradition, lui proposa de se choisir un nom. C'est ainsi qu'au pied du mont Fuji, la plus haute montagne du Japon, un esclave venu d'Afrique devint Yasuke, le seul samouraï noir ayant existé.
De Christian Jolibois et de Christian Heinrich, nom d'une poule, on a volé le soleil. Ah, mes petites sœurs Odile et Agnès, sur leur île ensoleillée de Nouvelle-Calédonie. Et à ma petite sœur Florence, au milieu des cherche-soleils de sa terre natale. Le soleil n'est pas encore levé, mes petites poules et poussins sont déjà réveillés. Coccyx, Liverpool, coq en pâte, une cocotte, vieille poupoule et mollet de coq attendent sagement dans leur nid. Et soudain, c'est la ruée. Ouh, ouh, les parents, vous nous faites une place? Ce sont les chaleureuses retrouvailles du matin. Pareillement à leurs copains, Carmen et Carmelito réclament aussi un câlin. Carmela les laisse se glisser bien au chaud sous son aile, comme lorsqu'ils étaient tout petits. Leur père, Piticoc, est déjà au travail. C'est lui qui, chaque matin, fait lever le soleil. Par la fenêtre, Carmen admire son papa, fièrement juché au sommet du tas de fumier. Noble et superbe, il lance son appel vers le ciel. Cocorico ! Cocorico ! Et une fois encore, le miracle s'accomplit. En cette belle matinée de juin, l'astre du jour pointe à l'horizon. Papa ! C'est notre papa qui l'a fait ! Quand je serai grande, dit Carmen, eh bien moi aussi, je commanderai le soleil. N'importe quoi, ricane Copain-Pat. Toi, t'es une fille. Seuls les coqs ont le pouvoir de faire se lever le soleil. Hélas, le lendemain est un jour sombre. En effet, Piticoc ne peut décider l'astre soleil à quitter son lit. Pire, il se met à pleuvoir. T'inquiète pas, papa, l'encourage Carmen. Après la pluie, vient le beau temps. Passent les heures, passent les jours, et le soleil reste sourd. Une semaine s'achève, une autre commence, mais le soleil ne réapparaît toujours pas. Le 18 juin, Piticoc lance son appel. En anglais, concraconcloble ! En espagnol, kirikiki ! En russe, courareko ! En chinois, boum boum ! En irlandais, kukadutatut ! En japonais, kankankan ! En italien, tchitchiriri ! En allemand, kirikiki ! Hélas, rien n'y fait. La fin du mois approche, toujours pas de soleil. Et le déluge continue. Très inquiets, Carmen et Carmelico interrogent leur ami Pedro, le vieux cormoran. « Ce qu'il faut savoir, mes enfants, leur explique Pedro, c'est que le soleil est un immense jaune d'œuf céleste. Et quand on ne le voit plus, c'est qu'il est cuit. » La pauvre Carmen est consternée. Ce pauvre Pedro devient gâteux. Tout le monde sait bien que le soleil est une grosse boule de gaz brûlant. Pendant ce temps au poulailler, on complote sur les perchoirs. Les petits coqs se sentent tout à coup pousser des ailes et s'enhardissent. « Piticoc a perdu ses pouvoirs !» proclame Coq en pâte. « L'heure est venue de prendre sa place !» Il a raison, s'enflamment les autres jeunes coqs. Allez, allons sur le tas de fumier. Seule Coqueluche qui a pris froid refuse de les suivre.
Sans moi, les copains, je suis malade.
Carmen et Carmelito sont très tristes. Ce matin, leur père a une nouvelle fois échoué dans sa mission. Place, place, écartez-vous, s'écrient en chœur les jeunes rebelles. On va montrer à Monsieur Piticoc ce qu'on sait faire. Dit Mollet de Coq. Ouais, votre père est devenu un mou de la glotte, se moque Coq en pâte. T'as pas le droit de dire ça de mon papa, s'emporte Carmelito en lui volant dans les plumes. Carmen déteste les combats de coq. et elle décide de mettre fin au pugilat. Si tu n'étais pas intervenue, Carmen, je les aurais... Il y a mieux à faire que de se taper sur le bec, dit la petite poule. J'ai demandé à Bilido de nous accompagner, frérot. Nous allons retrouver le soleil. Attendez-moi tous les deux, demande Carmen. Je reviens. Le cherche-soleil, c'est connu, a toujours la tête dirigée vers le soleil. Il suffit de suivre la direction indiquée par cette fleur, le tournesol, pour le trouver. Tu n'imagines pas tout ce qu'elle connaît pour son âge, Bellino. Par ici, les garçons. Moi, dit Carmelito, je crois que le soleil est malade. Eh oui, quand on est malade, on reste couché. Et même terriblement malade, ajoute Bellino, surtout très inquiet. Lorsque nous le retrouverons, il sera peut-être déjà mort. Sur les indications du cherche-soleil, Bellino, Carmen et Carmelito battent la campagne avec obstination. Ils fouillent les forêts, ils fouillent les bois, ils explorent les moindres petites grottes où le soleil pourrait se cacher. Jusqu'à ce que... Regardez, s'écrie Carmen, la fleur indique la direction du moulin de Colbert.
Salut les amis, lance Colbert en apercevant les trois aventuriers. Épuisé, trempé.
Le canard n'a jamais été à pareille fête. Un mois de mauvais temps interrompu, du jamais vu. Chantez et dansez avec moi. Si demain le soleil ne se lève pas, eh bien papa va perdre sa place, conclut la petite Carmen. Nous sommes dans le moulin des frères Montgolfier qui, dans leur atelier, fabriquent du papier. Et à quoi leur sert tout ce papier, s'étonne Bellino? À imprimer des canards. Toc toc, il dit n'importe quoi. À la queue leu-leu, il traverse sans bruit la chambre des frères Montgolfier. À flûte, la porte de l'atelier est fermée. Pas de panique, nous allons passer par la chatière. Et voilà, s'exclame Colbert. Je ne vous avais pas menti. Oh, youpi! Le soleil est vivant, s'écrie Carmen. Regardez comme il est content de nous voir. Courage, vieux, lui dit Bellino. Nous allons t'arracher des griffes de ces deux affreux. La montgolfière ronde va être lâchée. Tiré de son sommeil par ce remue-ménage, un des frères s'écrie. Un poulet rose est en train de voler notre invention. Un poulet rose? Mais bien sûr! Étienne, va te recoucher, demain une dure journée nous attend. Majestueux et silencieux, le ballon libéré s'élève aussitôt vers les cieux. Et s'en va, emporté par le soleil, poulet, canard et bélier, quitte le plancher des vaches. Ça n'a l'air de rien, ça! Mais c'est le premier vol habité de toute l'histoire de l'humanité. Carmelito et Bellino découvrent émerveillés que les nuages sont des moutons géants. Carmen, elle, s'interroge. Nom d'une poule, vu d'ici, on dirait que la terre est ronde. Oh, le poulailler! Au même moment, Carmela accompagne Piticoque à son travail en se frayant un passage entre les poules mouillées. C'est sa dernière chance, caquettent les commères. Et c'est dans un silence de mort que Piticoque lance son cri vers le ciel.
Cocorico ! J'ai réussi ! Le soleil est de retour !
Tandis que le ballon soleil exécute un bel atterrissage en douceur, le soleil, le vrai, pointe enfin le bout de son nez. Et par cette belle matinée ensoleillée, sous l'œil noir des jeunes coqs dépités, C'est le triomphe du papa de Carmen et Carmelito. Cela fait maintenant un mois que le soleil brille au-dessus du poulailler. Les petites poules ont retrouvé leur joie de vivre. Carmen a même inventé un nouveau jeu. 1, 2, 3. Soleil!
Le plus beau jour de ma vie, de Béatrice Ruffier-Lacasse. Papa, c'était quand le plus beau jour de ta vie? Le père de Louis répond, sans même détourner le regard de la télévision, et surtout sans hésiter. Quand j'ai épousé ta mère, mon chéri, nous venions de poser la première pierre d'une grande famille. Puis, il se replonge dans la contemplation de son émission de cuisine préférée. Louis se dirige alors vers le bureau de sa mère et passe sa tête par l'ouverture de la porte. « Maman ?»« Pas maintenant, Louis, je suis occupée. »« Mais c'est juste une toute petite question. Ça peut pas attendre ?»« Si, mais bon, vas-y, je t'écoute. » Louis s'avance timidement au centre de la pièce et pose sa question à toute vitesse. « C'était quand le plus beau jour de ta vie ?» Maman fronce un sourcil, hésitante. En fait, il y en a deux. Ta naissance et celle de ta sœur. » Elle esquisse un sourire nostalgique, mais se reprend vite. Elle a encore beaucoup de travail à finir avant le dîner. « C'est tout » demande-t-elle. « Oui » murmure Louis, qui est déjà en train de quitter la pièce sur la pointe des pieds. Ça fait déjà deux fois que Louis frappe, mais personne ne lui répond. Tout doucement, il entrebâille la porte. Louis se racle la gorge bruyamment pour que sa grande sœur le remarque, mais rien n'y fait. Alors il s'approche et souffle tout près de son oreille. « Camille !» L'adolescente sursaute puis se redresse furieuse. « Mais qu'est-ce que tu fais là, moucheron ? On t'a jamais dit de frapper avant d'entrer ?»« J'ai frappé, mais... » Camille retire un de ses écouteurs. Et sans attendre que Louis ait fini sa phrase, lui demande « Bon, tu veux quoi ?»« Je peux te poser une question ? C'est déjà fait !»« Zut !» pense Louis en se mordant les lèvres. « Vas-y !» soupire Camille. « C'est lequel le plus beau jour de ta vie en entier ?» Elle grommelle « Ça ne te regarde pas !»« Allez, s'il te plaît !» La jeune fille réfléchit, les yeux dans le vague. La soirée d'anniversaire de Cassandre, quand Arthur m'a invité à danser et qu'il m'a... Là, elle s'arrête net. Louis ne saura pas la suite. Camille le pousse sans ménagement hors de la chambre. « Allez, moucheron, t'en sais assez !» Elle lui claque la porte au nez. Ce soir-là, au repas, chacun mange en silence. Papa a toujours un œil sur la télévision. Camille en profite pour envoyer des SMS sous la table. Et la mère de Louis, qui n'a pas fini son dossier, est perdue dans ses pensées et ne remarque rien. « Moi, c'était le jour de la tempête, » dit Louis. Personne ne réagit. Il reprend un petit peu plus fort. « Moi, mon jour préféré, c'était celui de la grande tempête. » Cette fois, tout le monde l'a entendu et le regarde. Et il se sent rougir comme une tomate. La grande tempête a eu lieu un an plus tôt et a emporté plusieurs maisons sur son passage, faisant quelques blessés dans le village. Chez Louis, la toiture a été endommagée. Ils ont mis presque 8 mois à reconstruire. « Qu'est-ce que tu racontes ?» dit papa. « N'importe quoi !» répète maman en frissonnant. Camille plisse les yeux sans rien dire. Elle se demande vraiment où son petit frère veut en venir. Ce soir-là, reprend Louis, le vent avait tellement soufflé que nous n'avions plus de lumière nulle part. Papa est venu nous chercher dans nos chambres et on est tous restés dans le salon à se raconter des histoires dans le noir. Tu n'as pas travaillé, maman, et il n'y avait pas de télé. Camille n'écoutait pas de musique. On était ensemble. C'était le plus beau jour de ma vie. Le petit garçon avait fini sa phrase dans un souffle, comme s'il était sur le point de pleurer. Les parents de Louis se regardent d'un air coupable. Papa éteint la télévision sans bruit, tandis que Camille coupe son téléphone portable. Maman se dit que pour une fois, son dossier attendra. Elle propose à Louis. « Et ce nouveau jeu de société que tu as eu à Noël, si on les traînait ?» Le visage du petit garçon s'illumine. Pendant que sa sœur débarrasse, il prépare les pions, les cartes et les dés. Ce soir-là, ils ont joué en famille pendant de longues heures. Louis n'a pas toujours gagné, mais il s'est bien amusé. Sa sœur et ses parents aussi. D'ailleurs, le plus beau jour de leur vie, maintenant, c'est le vendredi. Celui-ci et tous les autres à venir. Puisque dorénavant, c'est chaque semaine que la famille a décidé de se retrouver pour des tempêtes de rire à partager.
Vous venez d'écouter « C'est en lisant qu'on devient liseron », une émission de la Fédération des œuvres laïques de l'Ardèche en partenariat avec les radios du département, Radio des Moutières, Déclic Radio, Radio d'ici et Fréquence 7.